Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. Bonsoir à tous, on est très heureux en ce milieu de semaine, bon, quasiment, hein, on est mardi soir d'être avec vous pendant 2 heures. On va se régaler et encore plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est la fin du mercato d'été. Dans le football, ça finit à 20h. Les deux dernières heures du mercato, c'est dans Rotten sans flamme. Vous allez tout savoir. Il va y avoir des surprises, c'est sûr, comme tous les mercato, en fin de mercato. Il y a toujours, au dernier moment, des petites pépites. Et ben, tout ça, vous serez en avant-première parce que ça se passera dans Rotten sans flamme. Soyez à l'écoute. On est là jusqu'à 20h avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme. Salut à tous.
Ça va, Benoît ?
19h59, la fin du mercato en France. Avec exactement toutes les infos dans Rotten sans flamme grâce à Fabrice Hockey.
Ouais, il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir beaucoup. Et déjà, la première info, c'est le retour cette année parce qu'il a été convaincant l'année dernière. Brillant. Ah, oui. Voilà, c'est le mot, brillant.
Étincelant.
C'est Souley Diawara. Salut Souley.
Salut les amis.
Ça va Souley.
Vous allez bien? Vous avez manqué. 6 semaines, hein, presque.
Ah bah oui, bien sûr.
C'est réciproque.
Je suis content de vous retrouver.
C'est réciproque. Ouais, tu m'as vraiment manqué.
Et tu nous as régalé pendant la Coupe du Monde. Tu faisais le fanfaron au début avec le Sénégal. Ça s'est vite calmé.
Ouais.
Bon, ça comme va. Vous.
Ils ont
comme
vous. Ils
comme
ont
avec l'équipe de France. On a fait les fanfarons en première partie. Et on s'est vite calmé. C'est pareil.
Et comme l'équipe de France, on a changé de sélectionneur. On va découvrir ça.
On a changé de sélectionneur.
Oui, on espère qu'il viendra dans Rotten sans flamme. D'ailleurs, le nouveau sélectionneur du Sénégal.
C'est sûr que c'est Pat. Il a signé, ça y est. Parce qu'il y a eu des problèmes.
Le problème à régler, il y a eu le litige avec Pape Tchao. Donc, tant que c'est pas réglé,
il ne peut pas signer. Il y en a un qui a été un grand coach aussi à l'époque. Oui, Souley, tu me regardes comme ça, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Ah, mon capi.
Bonjour messieurs, 19h59. Ça veut dire que tu peux être encore transféré, toi, Jérôme.
Ah oui, c'est
ça.
Ah, bien sûr.
Si tu savais les demandes, mais bon, je suis un peu cher là.
Il a été déclaré transférable.
Je suis sur une pente ascendante.
Ah, oui.
Ouais. Faut en profiter parce qu'on dégringole vite. Hein.
Ça va, Jean-Michel?
Tout va bien.
Bon.
Pleine forme. Tout va très bien.
Ah ouais. T'es excité en cette fin de mercato là? Vu qu'en France tout est à vendre.
Bah oui, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Ils sont pleins de pognon, les clubs français. Ils débordent. Les cassettes sont pleines. Tu vois. Ah ouais. Et le reste est vide. Voilà, allez.
Les cassettes. Bon.
Ah ouais,
Alors, pour les plus jeunes, les cassettes, voilà, ça existait à l'époque pour enregistrer vos contenus, la musique.
Non, mais
Jean-Michel, regarde. Il m'a encore dit, Jean-Michel, qu'il regardait les matchs avec un magnétoscope. Mais donc, il faudra expliquer aux plus jeunes. C'est vrai. T'as reçu là, le dernier match, là, la cassette.
Allô, Jean-Mi?
Souley, c'est catastrophique.
Je suis en train de souffrir aussi avec toi, mon capi.
C'est catastrophique d'avoir des ignares pareils. Attends, vous me chambrez, je peux vous chambrer quand même.
Retour en arrière pour un match et il met un quart d'heure. Hein.
Ah bah oui, bien sûr.
Parfois la bande.
Des fois, ça se bloque.
Ouais, terminé quoi.
J'ai cassé la bande. J'arrivais pas à la recoller.
Exactement. 18h04 sur RMC, Rotten sans flamme exceptionnel spécial mercato. Dès qu'une info tombera, vous entendrez ceci. La sirène et le cri du faucon, parce que Fabrice Hawkins va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Pour ne rien vous cacher, il est actuellement au téléphone avec un grand club anglais pour savoir si une transaction va se confirmer. Donc Fabrice va très vite débarquer pour donner les dernières infos transfert.
Fabrice, c'est so British.
Avant 20h. À 19h, Rotten se chauffe. La prise de position du soir signée Jérôme Rotten. Pour Jérôme, la stratégie du PSG sur ce mercato est excellente. C'est la bonne. Venez en débattre avec nous au 32-16. On parlera de tout ce qui s'est passé cet été au PSG. Les arrivées,
mais aussi troisième étoile, Souley.
Les Barcola. Ah, Souley, ça va être long.
Souley.
Bradley Barcola est parti.
Souley, ça va être le back-to-back-to-back.
Ouais. On en passe à quoi.
19h25, l'avare de Rotten sans flamme. Est-ce que Lyon doit être ambitieux avec cet effectif? Et puis 18h45, on fera un point sur l'été complètement fou en Angleterre, la frénésie d'achat des clubs anglais avec notre drôle de dame Julien Laurence, et puis un grand procès à 18h25.
Ils ont des grosses cassettes.
Ah ouais, c'est sûr. Le procès de tous ceux qui envisagent le pire pour l'OM cette saison. Il est entré dans ce studio, Fabrice Hawkins, messieurs,
quelle
dames.
Star, mais quel star.
À nos côtés, salut Fabrice.
Ça. Salut à tous.
Salut Fabrice.
Fabrice très occupé, une journée très chargée.
Il y a
quelques dossiers chauds à surveiller. Il y a un dossier dingue, c'est Malik Fofana. Là.
Malik Fofana, c'est incroyable. On ne sait pas où il va aller. Ce matin, il devait aller hier. Sunderland a appelé, mais Arsenal avait l'air quand même bien en pôle.
Ah, c'est fou.
Ce matin, il doit aller à Sunderland. Puis finalement, Pierre Sage, son ancien entraîneur, l'appelle. Il est convaincu pour aller à Crystal Palace. Ah, finalement, bon, Sunderland est en train de reprendre le dessus. Donc pour l'instant, on ne sait absolument pas où va aller Malik Fofana.
Et lui, il est où là, physiquement? On ne sait pas.
Alors, c'est
en Angleterre, sûrement.
Non, je pense qu'il est dans un avion. Il est dans un avion, mais je ne sais pas s'il sait où il va.
Ah ouais, ok. Les autres dossiers à surveiller d'ici 20h,
gros dossier aussi à surveiller côté anglais avec Enzo Fernandez va signer à Manchester City et pour le remplacer. Je vous en parle parce que ça pourrait nous intéresser ici en France. C'est peut-être Manu Koné qui va y aller, mais là aussi il n'y a absolument rien de sûr. Il y a un petit jeu de chaise musicale à ce poste là peut-être Manu Koné, Lamine Camara aussi. Info que je vous donne en direct d'ailleurs, la dernière offre de Chelsea pour Lamine Camara a été refusé. Offre de 50 millions d'euros pour Lamine Camara qui a été refusée donc par Monaco. Donc voilà, ça c'est un des gros dossiers à suivre aussi.
Ah, tant mieux.
Et puis on va continuer à voir ce qui se passe à l'OM notamment. Ils veulent dégraisser. On sait qu'il peut ça peut encore un petit peu bouger, même si on a bien compris qu'à l'OM beaucoup, très certainement il n'y aura pas d'arrivée. Mmh. Ça c'est aussi une certitude. Et puis c'est en train de bouger. Malik Fofana, on l'a vu. Youssouf Fofana, pardon, parce qu'il y a Malik
à Lyon.
Youssouf Fofana qui va signer à l'Olympique
à Lyon. Ça, c'est
donc il y a encore quelques dossiers comme ça.
Magnifique Fabrice, tu es toujours à la pointe de l'actu, donc tu reviens quand tu veux dès que tu as une info sur cette fin de mercato. Et puis il y a le jeu de la rentrée, Jérôme, la prime de rentrée RMC. Voilà.
Ça monte.
Ah oui, ça monte.
Ah oui.
Elle s'élève désormais à 35 125 euros à gagner.
C'est mauvais dans la roue. Et hier, 1500 dans
Rentrée
sans flamme.
C'est vrai. Somme à laquelle on va ajouter 125, 250, 500, 1000 ou alors 1500 euros. Jérôme est le roi de la roue, donc a priori il ramène toujours des grosses sommes. Au moment du
Toutes
top inscription, écoutez bien, sera la sonnerie de la rentrée. Vous aurez 10 minutes pour envoyer prime par SMS au 732-16. Prime au 732-16, 18h07 sur RMC, tout de suite. Jérôme, cette année encore, déstockage réussi pour les clubs de Ligue.
Comment liquider vos stocks?
Moins, plus moins, plus moins, plus moins, ça fait beaucoup de moins, tu comprends?
Les invendus se retrouvent en première ligne, bradés, démarqués, jetés en vrac dans les bacs.
On a déjà vu des championnats appauvris, mais quasiment ruinés, c'est quand même beaucoup plus rare.
J'ai tant de jus déjà, on n'a pas effra, c'est de la souffrance, on subit!
Mais non, là c'est la chute de l'Empire romain.
Il risque d'avoir une bulle spéculative et expansionniste, l'inflation risque d'être terrible, elle est d'ailleurs à l'heure actuelle.
Vous débarrassez du surstock qui pèse lourdement sur les comptes de votre entreprise et envahit les réserves.
Code de tenue, que j'ai eu mes diplômes dernièrement, je me prends pour un professeur de mathématiques.
Je le connais par cœur, il m'a dit 55 minutes, 35 l'autre.
Vous l'avez compris, les soldes sont une période importante dans la vie d'un commerce.
Je sais pas ce que c'est une mauvaise
idée.
J'ai mon bac.
Il y a des salaires de ouf.
J'étais très bon en maths, t'en fais pas.
Jérôme, le 100% n'existe pas.
Rien plus rien, ça fait rien de neuf, quoi. Il n'y a rien du tout.
Matière préférée, c'est les maths. 38 par 3. Ça doit faire 114. Je suis un matheux.
Ah, on les aime les chiffres. Dans Rotten sans flamme sur RMC. Et l'homme des chiffres ce soir, c'est Valentin Germain qui nous rejoint. Salut Valentin.
Bonsoir monsieur, bonsoir à toutes et à tous.
Déjà le premier chiffre à retenir, plus d'un milliard de ventes pour les clubs français cet été. La France a des talents, elle sait les vendre désormais. C'est la principale source de revenus depuis qu'il y a
PSG,
de droits télé.
Oui.
C'est vrai que... Ah, il n'y a pas que le PSG.
Ah ouais, bah, oui, sur un milliard, c'est quasiment la moitié.
Ah mais l'Olivier Létan a bien vendu, hein. Attention, Fernandez Pardo qui vient de partir pour plus de 60 millions d'euros.
Redondo,
ça fait 500 millions.
Redondo, incroyable. En plus, plusieurs équipes n'ont pas ou peu recruté. Est-ce que tu peux nous faire un point, d'ailleurs, Valentin, sur les principaux départs de l'été?
Oui, alors déjà, c'est quand même notable. Le record de la plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1, il a été battu deux fois en quelques jours cet été. D'abord Boadi, parti à Manchester City depuis Lille pour 100 millions d'euros, dépassé donc par Barcola ensuite, qui est parti à Liverpool pour 140 millions d'euros bonus compris. C'est des chiffres qu'on n'avait jamais vus pour des départs. Paris et le PSG qui ont fait signer des joueurs pour essayer de remplacer ces deux talents, mais la Ligue 1 Ligue 1 a aussi perdu le deuxième meilleur buteur de la saison dernière. Je parle de l'ancien Marseillais Mason Greenwood. 40 millions d'euros, il est parti de Marseille direction Fenerbahçe, alors que Marseille n'a recruté personne. Balerdi, Medina, Rouli, Aubameyang sont partis. Et au final, beaucoup de clubs donc ont dégraissé et ont encaissé des gros chèques. Mamadou Sangaré, il a quitté Lens, 48 millions d'euros direction Brentford. Lyon a perdu Afonso Moreira, peut-être Malik Fofana. Et si Fofana part, on pourrait avoir un package pour les deux de 80 millions d'euros. À Monaco, Aladji Bamba, peut-être Balogun. On pourrait aussi avoir la même somme, 80 millions d'euros, si Balogun part bien pour une quarantaine. Strasbourg a perdu Emega, Barco, Moreira, Enciso, Ouattara. Il n'y a plus d'équipe par rapport à la saison dernière. On va dépasser, tu l'as dit Benoît, on le dépasse déjà, 1 milliard 200 millions d'euros de ventes sur ce mercato. C'est plus que l'an dernier, mais c'est vrai que Paris, sur ce chiffre, a vendu pour plus de 300 millions. Donc c'est quand même une part importante. Néanmoins, ce qu'on peut vraiment retenir, c'est que les bénéfices des clubs français sont beaucoup plus élevés que la saison dernière. Donc on a beaucoup plus vendu qu'on a dépensé d'argent, évidemment, du côté des clubs français.
Merci Valentin. Qui dit vente dit perte de talent pour la Ligue 1. C'est la une de Rotten sans flamme ce soir sur RMC. Est-ce que la Ligue 1, Jérôme, est condamnée à régresser? 32-16 pour en débattre avec Soulé, Jean-Michel et Jérôme.
Non, la Ligue 1 n'est pas condamnée à régresser, parce que si tu te réfères juste aux chiffres, oui, en effet, tu te dis la Ligue 1, elle peut pas continuer à nous enthousiasmer et à monter le niveau. Mais moi, je vais parler du terrain. On est là aussi dans Rotten sans flamme. On n'est que des anciens joueurs
internationaux.
Voilà. Et donc à partir de là, au départ, quand tu débutes en Ligue 1, tu regardes pas. Et je pars du principe que tu regardes pas l'aspect financier. Donc t'as des jeunes joueurs de talent. Et il y en a encore dans les centres de formation. Nous, la grande qualité de la France, et il faut pas copier les voisins européens. C'est pas. On n'a pas besoin de copier ça, parce que nous, ça marche bien, les centres de formation. Nous, on arrive dans les centres de formation à créer plusieurs genres de joueurs. On n'est pas, on les met pas dans une case et ils sont tous formés de la même façon. En Espagne, très souvent, on a à peu près les mêmes profils, tu vois. Et attention, c'est pas une critique, parce que les Espagnols, franchement, pour maintenant commenter le championnat espagnol, on voit qu'il y a des équipes de qualité, même avec des moyens limités.
Ou de style de joueur.
De style de joueur.
D'accord.
Et après, à partir de là, quand tu crées un petit peu tout le genre de joueur, bah oui, tu peux avoir un package qui est important, et c'est pour ça qu'il y a les grands clubs européens viennent nous les choper très jeunes, après un an ou deux ans en Ligue 1, ils prennent, et les meilleurs éléments, ils partent, et les clubs, en effet, aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, ils peuvent pas lutter. Parce que tu t'es obligé de vendre, en tout cas. Tu vois, quand t'entends Jean-Loup Leca la semaine dernière qui nous explique que il peut pas, quand il recrute un joueur moins de 10 millions d'euros sans garer l'année dernière et qu'il a une offre à quasiment 50, il peut pas dire, ah bah non, il y a la Ligue des Champions, je vais garder ce joueur-là. Ouais, non, c'est pas possible. À Lille, Boadi, 100 millions, qu'est-ce que tu veux? Olivier Létan, il peut pas dire, ah bah non, 100 millions, ah non, Boadi, mon équipe, elle va être inférieure, parce que c'est le cas, parce que tu perds un joueur important, en effet, qui peut continuer sa progression, et qui était déjà un très bon joueur, mais 100 millions, tu peux pas dire non. Quand tu vois qu'il n'y a pas de rentrée d'argent au niveau des droits télé, contrairement à une certaine époque, ouais, oui, ils sont obligés de faire les ventes. Et c'est pour ça que tous les clubs aujourd'hui ont essayé de se restructurer là-dessus, en essayant de faire des ventes. Alors, il y en a qui ont vendu beaucoup, il y en a qui ont vendu un petit peu, mais ça leur fait un petit peu la perte qu'ils peuvent avoir sur les droits télé. Et donc, ils se servent de ça, de cette vente-là, pour dire, bon, écoutez, au moins, on a compensé le manque de droits télé avec la vente d'un ou deux joueurs. Mais ça, c'est pas problématique pour la suite de la saison. C'est-à-dire, Monaco a vendu, alors peut-être que Balogun va sortir pour 80 millions. Est-ce que Monaco, ils ont été déplumés, et que Monaco n'a pas une équipe qui peut continuer sa progression? Moi, je crois beaucoup à ce genre de joueur. Lens, on a eu l'exemple de Jean-Loup Leca. C'était déjà une grande surprise l'année dernière de les voir à ce niveau-là.
Tous les paris tentés.
Écoute, ils ont recruté. Ouais, alors peut-être qu'en effet, ils n'auront pas la même réussite, pas les mêmes résultats, mais je pense que Lens va continuer à nous sublimer et à nous rendre beaux certains matchs. Ça, c'est sûr. Et puis il y a d'autres équipes qui peuvent se greffer. Il faut pas oublier l'année dernière quand même, parce que moi je pars du principe que les grosses équipes qui devaient être là au rendez-vous, elles n'ont pas été là en termes de spectacle déjà, c'est la vérité. Mais par contre, on a eu des bonnes surprises, il ne faut pas l'oublier. Angers a très bien joué au football l'année dernière avec des moyens limités. Brest, il y a quelques années. Le Havre.
Lorient, c'est le bon exemple.
Le Havre, Lorient. Ouais. Ah ouais, mais les gens oublient, en fait.
Ouais, c'était plus un maintien avec.
Donc moi, je suis pas pessimiste, quoi.
Okay.
Quoi.
Jean-Michel, je sentais bougonner.
Non, je ne bougonne pas. Non, d'abord, Valentin, quand on vend pour 1,2 milliard, c'est pas pour faire des bénéfices, hein, je voulais lui dire. C'est pour combler des trous.
Hein, oui, déjà. Ça c'est sûr.
Oui, mais je veux dire, par rapport à ce que tu dépenses, il y a un bénéfice, vente dépense. Après, oui, tu en fais ce que tu veux du bénéfice.
Non, par rapport à ce que tu dépenses, oui. Mais oui. Les bilans comptables des clubs, quand le rouge supplante le bleu, il faut bien le combler à un moment ou à un autre. L'argent n'est pas magique. Je sais bien qu'on
parle. Tu veux dire que c'est la seule solution pour les clubs de Ligue 1?
Mais c'est la seule solution. Il n'y a que comme ça que les clubs français peuvent vivre.
Ah bah oui.
Peuvent survivre.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, entre vente et bénéfice, j'ai pas fait de cours de comptabilité, mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Déjà. Ça, c'est le premier point.
Donc t'as raison.
Le deuxième point. C'est que j'ai regardé un petit peu les effectifs des clubs qui sont dans le ventre mou de la Ligue 1. Mmh. Et ils sont tous aux alentours de 33 et 35 contrats pro. Sur les 33 ou 35 contrats pro, il y a 10 joueurs qui verront jamais la pelouse d'un stade de Ligue 1 cette année.
Eh oui, ça c'est sûr.
Là, sur les 35, il y en a 10 qui verront jamais, ou alors ils les verront à 10 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Vraiment, quand il y aura une épidémie de variole.
Après, quand un jeune est majeur, tu es obligé de le faire signer si tu veux le garder, même si c'est pour dans quelques années, à moyen terme. Quand tu parles des effectifs fournis, souvent ce sont des jeunes joueurs.
Tu n'es peut-être pas obligé de prendre 3 ou 4 gardiens de but, si tu veux, par exemple. Enfin, bon. De toute façon, le résultat est là. Il n'y a pas de souci. 35 pros, il y en a 10 qui ne joueront jamais dans la saison. Jamais, ou si peu de temps. À partir du moment où on continue à avoir un niveau de vie qui ne correspond pas à ses recettes, on va à la catastrophe. Parce que aujourd'hui, je vois qu'il y a des appels d'offres pour la télévision, mais on ne sait pas ce qui se passera dans un an, et peut-être dans deux ans. Mmh. Et tout à fait par hasard, si tout va bien, on va commencer à toucher un petit peu d'argent dans trois ans. Mais trois saisons, c'est pas long, c'est une éternité en football. Donc, je considère aujourd'hui que le modèle français tel qu'il est. Moi, quand je vois les staffs des équipes, messieurs, je veux bien qu'on soit obligé d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'eau chaude, l'autre qui s'occupe de l'eau froide, l'autre qui s'occupe de la jambe droite, l'autre qui s'occupe de la jambe gauche. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est surdimensionné par rapport, non pas par rapport à ce que l'on souhaiterait, mais par rapport à notre niveau de vie. On est quand même un football où on a des dettes de partout. Où on a été obligé de vendre les bijoux de famille de la Ligue de football professionnel, de faire une société commerciale qui rapporte 2 roubles et 3 pistoles, qui est sous le contrôle d'un fonds d'investissement luxembourgeois, si je ne me trompe. Mmh. Voilà. Donc, moi, je veux bien que... Alors, après, effectivement... Il y a des jeunes qui vont arriver, et heureusement...
Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas verser dans le catastrophisme, Jean-Michel. On peut voir des belles choses sur le terrain quand même.
Mais c'est vrai que c'est un peu au petit bonheur, la chance.
Mais aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, Écoutez, je vous prends un exemple, messieurs. Valentin, tu es toujours là, Valentin?
J'ai sorti mon cahier.
Il s'est fait convoquer, il est là.
Valentin. J'ai vu qu'il y avait un club de nation. Alors c'était ex-National 2 qui doit être maintenant National 1, puisqu'il y a la Ligue 3 qui existe.
Donc l'ancienne N2, oui.
D'accord. Dans le budget cette année pour vivre, il fallait qu'il trouve 10,6 millions. C'est un club qui n'est pas très loin de chez moi. 10,6 millions. Dites-moi comment un club et comment la DNCG peut imaginer qu'un club, d'ailleurs il ne l'a pas imaginé, qu'un club de National 1, c'est-à-dire qui doit être la 5e division française ou la 4e division française, peut
peut rassembler 10 millions 6.
Bah, réponds à ça, Valentin, toi.
Je n'ai malheureusement pas la réponse. J'écoute le prof.
Mais c'est de la pure imagination.
Ah, c'est sûr.
Donc sifflet. Donc je vous dis.
Sifflet, monsieur.
Donc je vous dis, oui, ouais. Oui, les sifflets. Ah, oui. Donc je laisse ma place parce que je suis. Si toi tu es très optimiste, moi je
non,
suis.
Non, je suis pas très optimiste.
Hein. Plutôt pessimiste. Ouais. Si on ne revient pas à des bonnes bases. Voilà.
Soulet, redonne ma question. La question, c'est est-ce que la Ligue 1 est condamnée à régresser?
Là, la question est-ce que la Ligue 1 est condamnée à régresser? Jérôme, il a très bien répondu, où je te rejoins, c'est que quand tu regardes les transferts que la Ligue 1 a fait cet été, 1,2 milliard,
ouais.
Je pense que c'est correct.
Ah bah oui, hein,
c'est correct. C'est qu'il y a de la qualité encore. Et chaque saison, c'est vrai qu'on a tendance à répéter à « Ouais, mais là, il y a les joueurs qui sont partis ». La Ligue 1, elle va régresser. Mais finalement, on atteint des transferts, des records, presque des records, même des records, même jusqu'à Barcola.
Oui, il y a eu des records.
En termes de vente, oui.
En termes de vente, c'est que si tu as des records comme ça, c'est que la Ligue 1 a des joueurs de qualité. On est d'accord.
Et que la Ligue 1 est respectée aussi.
Et la Ligue 1 est respectée. Moi, personnellement, chaque week-end, je me régale. Je me régale à regarder la Ligue 1, à découvrir des nouveaux jeunes, des nouveaux talents. Et voilà. Et c'est ça, la beauté du football. C'est pas parce que on n'a pas d'argent en droit TV que où les meilleurs joueurs, entre guillemets, partent. Mais il y en a toujours. Il y en a qui partent, il y en a qui viennent. Et c'est ça, la beauté, encore une fois, du football. C'est pour ça que je voulais poser la question à Jean-Michel. Est-ce que toi, le week-end, tu te régales à regarder la Ligue 1?
Mais moi, je me régale à regarder n'importe quel match de football.
Non, je te parle en Ligue 1.
Mais la Ligue 1 et la Ligue 2, j'ai regardé la Ligue 2, je me suis énervé un peu hier au soir.
Oui, je suis optimiste.
On ne parle pas. Nous, on est des mauvais spectateurs parce qu'on aime ça et on regardera de toute façon le spectacle. Et on appréciera toujours le spectacle. Je te dis simplement, là aussi, nous sommes un petit peu obnubilés. Parce qu'il y a un club qui est quand même notre vitrine, qui est la vitrine du football français.
Qui est double champion d'Europe.
Et qui peut se permettre de laisser partir un joueur majeur comme Barcola. Et on le comprend, on en a parlé dans Rotten sans flamme. On en connaît les raisons. Mais ils vont chercher d'autres joueurs. Mais attention, c'est l'exception qui confirme la règle.
Mais là, on est d'accord.
C'est l'exception qui confirme la règle.
Jean-Michel, moi, je suis d'accord avec toi, mais pour rejoindre Soulet et ce qu'il dit, bien sûr qu'on prend du plaisir à regarder des matchs de Ligue 1, comme des matchs de Ligue 2 et comme des matchs de Ligue 3, parce que moi, ça m'arrive de regarder des matchs de Ligue 3 aussi. Donc, en effet.
Plus de plaisir devant la Ligue 1,
non, mais
pas se mentir.
Non, mais bien sûr. Et déjà, par rapport à l'atmosphère, un stade rempli, plein, parce qu'on a aussi la chance d'avoir des stades qui sont bien remplis. Et partout.
Voilà,
donc ça bonifie un peu aussi le rendu qu'on peut avoir quand tu regardes un match devant la télé. Par contre, après, là où Jean-Michel t'as pas tort, c'est que il y a des erreurs techniques qu'il n'y avait pas avant au niveau de la Ligue 1. Pour moi, la Ligue 1 a toujours été, on est passé par là. Il y a des matchs, si tu veux, où les niveaux varient un petit peu trop, tu vois, d'un week-end à un autre. Je te prends l'exemple de Marseille. Marseille, c'est avec des joueurs. Tu vois la qualité de leur match contre Strasbourg. Ils sont capables, une semaine après, de faire un non-match à Monaco, catastrophique sur le plan physique, mais aussi surtout sur le plan technique. Donc là, en effet, ces équipes-là, pour rendre la Ligue 1 attractive et forte, les grosses cylindrées doivent trouver une stabilité.
La question est très simple, Jérôme. Est-ce que le remplaçant de Greenwood est aussi fort que Greenwood?
Bah non,
il n'y a pas de remplaçant à Greenwood.
T'as raison.
Oui, mais on dit ça tout le temps.
Là où je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Michel, mais sur ton côté.
Ça, tu me rappelles un président de club qui considérait qu'à partir du moment où on avait une licence de footballeur professionnel, tout le monde avait la même valeur.
Jérôme, je réponds à Jean-Michel. Moi, ce que j'aime pas dans votre discours, c'est que vous faites passer comme ça le foot français pour un championnat qui est en train de mourir à petit feu. Mais question simple que je vais vous poser. Est-ce que le championnat était meilleur?
Parce que tu avais une garantie que les clubs.
Est-ce qu'on a été plus compétitifs?
Non, parce que les clubs travaillaient différemment.
Ah bon?
Ben oui, ils travaillaient différemment parce que tu avais plus d'argent. Donc en fait, ils prenaient plus de risques et
il pouvait accepter, si tu veux, l'erreur.
Et le sur un recrutement. Pas meilleur, Jérôme.
Mais non, mais je te. Non, mais si. Si
mais non, non.
Arrête. Moi, je te
mais
dis.
Tu le vois sur les résultats en Coupe d'Europe.
Non, mais tu plaisantes. Non, mais là, tu dis une énorme connerie, Benoît.
Tu dis une énorme bêtise. Est-ce que l'équipe de Lyon des années 2000-2010 était supérieure à l'équipe de
c'est
Lyon
pas la grande période des droits télé, ça. Là, vous remontez trop loin.
Ben si, mais il y avait des moyens. Mais il y avait des moyens. Il y avait des moyens, exactement. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de droits télé. Ils ont touché zéro. Donc, automatiquement, quand tu es comme ça, tu es obligé de travailler différemment. Et c'est là que je crois, moi, au nouveau profil des directeurs sportifs qui ont un rôle encore plus intéressant maintenant et important dans les clubs. C'est que c'est notre génération sous les directeurs sportifs aujourd'hui, ils arrivent les cadors, c'est un peu de notre génération. Et ben moi je compte sur leur œil qui va être différent parce qu'ils vont travailler différemment
et du temps aux joueurs.
Et peut-être qu'en effet, il y a des joueurs qui aujourd'hui ne pouvaient pas atteindre la Ligue 1 à travers des petits transferts quand ils jouaient en Ligue 2 ou en Ligue 3. Aujourd'hui, il y en aura un peu plus. Tu vois, je vais te prendre mon exemple. Et on s'en fout, je travaille pas dans un club, je travaille à l'émission, mais j'aime le foot. Je suis allé voir Concarneau, quand j'étais en vacances en Bretagne, je suis allé voir Concarneau en Ligue 3. Et ben, je me suis aperçu que dans ce match Concarneau-Villefranche, c'est pas les deux meilleures équipes de Ligue 3. Il y a quand même des potentiels chez certains joueurs qui peuvent être amenés très bientôt à jouer en Ligue 1.
En Ligue 1. Bah regarde le manque a fait de montées successives avec un effectif.
Et est-ce que c'est problématique? Peut-être que ça sera des bonnes surprises.
Allez, merci à Valentin Jamin qui est venu. Toutes
avec
les infos sur.
J'ai trouvé la solution pour le club de Jean-Michel. Il faut juste qu'il y ait un peu de son salaire et les 10 millions seront rapidement bouchés.
Ah,
bouchés,
ça c'est une bonne idée. Bravo Valentin. Merci.
Ouais, non, mais ça tombe bien, c'est trop tard.
Ça tombe bien, c'est trop tard. Jérôme, je t'invite à te lever pour faire tourner la roue.
C'est comme hier,
1500. Prime de rentrée RMC. Le montant s'élève pour le moment à 35 125 euros. Vas-y, Jérôme.
Oh, quel lancer de roue.
Et avec la roue, nouvelle roue, ça va. C'est une nouvelle roue.
Ouais, je n'avais pas vu, ça va.
Ouais. Bravo, Jérôme. On dirait la roue de la fortune.
Oh, où est-ce que ça s'arrête?
Comment elle s'appelait, celle qui
Ah, je sais pas. Là, je peux pas t'aider. Désolé.
Mais c'est fou!
1000 euros en plus dans la cagnotte. 36 125 euros désormais pour la prime de rentrée RMC. Il est 18h27.
Jean-Michel,
vous avez 10 minutes pour envoyer prime par SMS.
Jean-Michel, j'ai vraiment le pied gauche, c'est un diamant. Ah, ouais, ça fait deux fois que je tourne avec le pied gauche. 1500 hier, 1000 euros aujourd'hui.
Allez, grand procès dans un instant.
On va supporter ça toute la saison.
Le procès, tous ceux qui envisagent de venir pour l'OM.
C'est incroyable.
Allez, à tout de suite avec Soulé.
RMC. Jusqu'à 20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme, on est en mode mercato. La fin du mercato dans 1h28-27 minutes. Ouais, ça sera la fin du mercato, on saura tout. Il va y avoir des surprises encore. Fabrice Hopkins est là et on attend qu'il nous hérode là. Il est au téléphone, c'est incroyable. Il n'y a plus de batterie, il est obligé de demander mon téléphone. Voilà, non, mais c'est dingue. On est avec Soulé Diawara, on est avec Jean-Michel Larquet, on est avec Benoît Boutron.
Ouais, mais sauf que quand Chelsea voit ton numéro s'afficher, ils disent non, mais lui, il nous a dit non en 2004, on va pas lui répondre.
C'est vrai. Ah, bon, c'est vrai. Bah, je leur ai dit non.
Il est 18h33, vous avez encore 4 minutes pour envoyer prime par SMS au 732.
Et il a voulu prendre suite Soulé, mais Soulé lui a dit non, tu me touches pas mon téléphone.
Grâce à Jérôme.
C'est bizarre.
36 125 euros à gagner si vous envoyez prime par SMS au 732-16. Avant le procès sur l'OM, parce qu'on a plein de membres de la Dream Team qui s'inquiètent pour cette saison marseillaise. Accueillons Xavier Grimaud. On va faire le point avec tous nos correspondants sur les fins de mercato de leur club. Salut Xavier.
Salut Xav.
Salut messieurs. Salut à tous.
Parlons donc de la fin du mercato à Rennes, Xavier.
Oui, avec une arrivée qui devrait être officialisée là sous peu. C'est Boulaïdia, l'ancien Rémois, l'attaquant en provenance de la Lazio de Rome, prêt avec option d'achat. Et logiquement, derrière, c'est bouclé hein, pour le mercato de Rennes. Boulaïdia qui serait la 8e recrue de l'été pour le stade Rennais après le gardien Lemaître, Cresswell, Oliveira, Reynolds en défense, Thomasson, Soumaré, Mayenda et donc Boulaïdia. Francaise, il réclamait une alternative à Le Pol, qui est évidemment incontournable au poste d'avant-centre. Donc ce serait l'ancien Rémois qui a fait une très belle saison à la Lazio de Rome il y a 2 ans et ensuite un petit peu perdu sa place, mais il était titulaire lors des 2 premières journées du championnat d'Italie. Et voilà, les Rennais vont avoir un groupe assez resserré de 20 joueurs et 3 gardiens que voulait Francaise. Et maintenant, il y aura pas mal de concurrence. Ça manque peut-être un peu de technique. En tout cas, c'est la critique qu'on entend notamment du côté des offensifs, mais Francaise a priori un groupe, le groupe qu'il voulait pour essayer d'aller faire un bon championnat et un bon parcours en Europa League. Donc Boulaïdia, dernière recrue du mercato Rennais, après ce sera terminé.
Xavier, c'était
dans le
parfait,
sens des arrivées.
Merci beaucoup.
Bravo,
des infos à trouver sur rmcsport.fr.
RMC, Roten sans flamme.
Il y avait un joueur qui avait son physiothérapeute personnel. Mais il le masse combien de temps par jour, le physiothérapeute personnel? Ils ont un gars qui leur fait de la sophrologie, un gars qui leur fait de la psychologie, un gars qui leur fait de l'aérobie, un gars qui... Arrêtez.
C'est la modernité.
Comment?
C'est la modernité.
Ah si, c'est la modernité. C'est de faire tout ça et de te faire dans le froc au moment du match. Ah mais vive la modernité.
RMC, c'est pas moi qui le procès.
Je me rappelle pas.
Tu sais de qui tu parlais? Tu parlais de Thiago Silva à l'époque. Incroyable archive. C'était magnifique. Déjà dans...
Après
dans
le 6-1, ouais.
Ouais, c'était fou. Alors c'était la date cochée par...
J'avais peut-être pas complètement tort.
Ah non, c'est sûr. Bon, c'est vrai. Ouais. T'inquiète pas. Une date donc cochée par tous les supporters de l'OM, cette fin de mercato, le 1er septembre à 19h59. Certains marchés fermeront plus tard, mais on aura le temps d'en parler, notamment les prochains jours. La certitude, c'est qu'il n'y aura pas de recrues cet été pour l'OM. Je vois mon ami Fabrice Hawkins qui est revenu dans ce studio. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sens des départs? Ah bah, il y a l'alerte. Dès que tu rentres, il y a l'alerte. C'est incroyable, Fabrice.
Ah, est-ce qu'on a
des nouvelles marseillaises? Est-ce que ça va bouger ou pas?
Alors, je vais t'annoncer quelque chose qui n'est pas en lien avec l'OM, mais on commence avec le sujet sur lequel tu me lances. Il n'y a pas forcément de nouvelles, et malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'OM, parce qu'on sait qu'il faut absolument faire sortir des joueurs. Ils ont fait sortir Balerdi récemment à l'AS Rome en prêt avec option d'achat, et c'est vrai qu'ils attendaient de faire au moins 2 voire 3 encore départs pour pouvoir recruter un joueur. Il y a justement un élément qu'on regardait avec beaucoup d'attention, c'est Igor Paixão, parce qu'on sait que Bruno Genesio et Grégory Lorenzi souhaitent qu'il reste. Pour l'instant, il est toujours là et il devrait rester là, puisque vous l'avez compris tout à l'heure, c'est Malik Fofana qui devrait aller à Sunderland si ça se finalise, parce que là aussi, rien n'est moins sûr, Sunderland ou Palace pour Malik Fofana. Mais en tout cas, pour l'OM, très franchement, ça, on se dirige, sauf s'il y a une surprise d'ici maintenant un peu moins de 3 heures, sauf s'il y a une grosse surprise. Je pense qu'ils vont partir avec le même effectif, et ça fait plusieurs jours qu'ils s'attendent justement à ce qu'il n'y ait pas de recrue.
Fabrice, tu as une autre info à nous donner, tu viens de la sortir d'ailleurs.
Ouais, cette Manu Koné va rester à la AS Roma finalement. Il y avait une possibilité pour lui de signer à Chelsea, et il avait trouvé un terrain d'entente avec le club anglais. C'était une possibilité pour lui aussi de passer une étape supplémentaire dans sa carrière, mais malheureusement pour lui, il va rester à la AS Roma, bon, qui joue quand même la Ligue des Champions, qui a quand même assez intéressant. C'est vrai que pour Manu Koné, ça va être quand même une petite déception pour lui.
C'est-à-dire que Camara peut partir de Monaco vers Chelsea?
Non, pour l'instant, on prend le chemin.
Eh oui, tout est lié, c'est compliqué tout
C'est intéressant la question que tu poses, mais pour l'instant, sachant que Monaco vient de refuser une deuxième offre de Chelsea, donc 50 millions d'euros, bah, peut-être que ce sera le statu quo, et Chelsea va jouer avec Reece James au milieu, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour Malo Gusto qui va jouer à droite.
Eh bah, écoute, merci Fabrice pour toutes ces infos. Soyons efficaces sur le procès. Le procès ce soir de tous ceux qui envisagent le pire pour l'OM cette saison. On a deux procureurs. Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Souleymane Diawara, bonsoir.
Bonsoir.
Celui qui fait partie de toutes ces personnes qui envisagent le pire, c'est Jean-Michel Larquet, bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est Loïc qui va rendre le verdict.
Il a sorti la boule de cristal.
Allez. Salut à tous.
Salut Loïc. Sois le bienvenu Loïc.
Bienvenue Loïc.
Vas-y Jérôme, tu en as marre de ce pessimisme ambiant autour de l'OM?
Oui, parce que en fait, on s'attendait. Alors, on s'attendait pas, en effet, et moi, je suis le premier surpris à ce qu'il y ait aussi peu de départs et donc pas d'arrivées. Donc ça, malheureusement pour l'Olympique de Marseille, c'est ma grande surprise, et c'est pas bon signe, si tu veux, pour des ambitions élevées à l'OM. Alors après, attention, ambitions élevées, je te dis pas qu'ils doivent annoncer le titre de champion, mais n'empêche que quand t'es à l'OM, et Soulet est mieux placé que moi, automatiquement, quels que soient les moyens du club, tu sais que les gens, ils attendent que tu fasses une belle saison. Une belle saison, c'est au moins finir dans le haut du tableau.
Européen.
Voilà. Donc, à partir de là, pour finir européen, je pars du principe que, oui, j'aurais été plus optimiste s'il y avait eu quelques arrivées, et que ce groupe aurait été chamboulé un petit peu, parce que il devait être chamboulé après une année cauchemardesque l'année dernière, et que là, mes doutes, ils sont là. En fait, il faut pas minimiser, si tu veux, l'impact de cette saison dernière, les restes qu'il y a. Quand t'as été un joueur que t'as subi autant de contre-perf l'année dernière, ils sont responsables, attention, hein. Ouais. C'est eux qui étaient sur le terrain, c'est eux qui ont failli, c'est les dirigeants aussi qui ont failli, le recrutement qui a failli, tout était à l'envers l'année dernière, et de toute façon on l'a constaté très vite dans Roten sans flamme, et donc à partir de là, en effet, ils ont vécu l'enfer. Quand tu vis une saison comme ça, et moi j'en ai vécu une dans ma carrière, donc je suis bien placé pour en parler, t'as l'impression, dès que ça, c'est terminé, déjà, un ouf de soulagement que ça soit terminé, tu pars en vacances, t'as l'impression d'avoir fait 5 ans en un an.
Ouais.
Ça, c'est la réalité. Tu te retrouves, après, tu reviens de vacances, où t'as l'impression que tu t'es pas reposé, parce que les 3 semaines de vacances qu'ils ont eues quasiment, t'as l'impression que t'es parti en vacances que 5 jours. Quand tu reprends l'entraînement, en effet, t'es pas totalement serein. Mmh. Et en plus, on t'annonce que tout le monde est avant. Et à partir de là, forcément que psychologiquement, c'est compliqué de te préparer physiquement, mentalement à partir ailleurs.
T'es optimiste ?
Ah non, à partir ailleurs et ensuite en fin de mercato de te dire bah les gars, on compte sur vous pour que vous fassiez le maximum.
En un mot, qu'est-ce qui te rend optimiste? Donc, alors
enfin, en fait,
pessimiste.
Non mais je suis un peu pessimiste mais pas comme Jean-Michel.
Pas
Jean-Michel
autant.
Va vous expliquer.
Pas autant.
Je suis non, pas okay. autant parce que je pars du principe que la Ligue 1 elle donne très peu de garanties dans certains clubs qu'ils fassent une bonne saison. Et quand tu regardes l'effectif de l'OM, ils ont quand même changé l'entraîneur. Je dis pas que tout seul, il va y arriver.
Ouais,
mais Bruno Genesio a une capacité et c'est ses compétences d'amener de la sérénité. Et on l'a vu contre Strasbourg. Il faut pas minimiser leur performance contre Strasbourg. En effet, il y a eu la contre-perte, le non-match à Monaco. Mais je pars du principe que des performances comme Strasbourg, ils peuvent en faire avec cet effectif-là. Et s'ils en répètent quelques-uns, la confiance va peut-être revenir et automatiquement, okay. l'OM reviendra dans la première partie du classement, contrairement à Jean-Michel qui les voit dans la seconde partie du classement.
Soulez, vas-y.
C'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre avec Capi.
Voilà.
Il est toujours dans l'exagération. toujours. Pourtant, je l'aime, hein, mon Capi, je l'aime. Mais ah c'est ouais. trop. Non, mais moi, pourquoi je dis que je suis optimiste? Parce que tout simplement, Genesio, quand il est arrivé à Marseille, il a dit les choses claires. Il a dit les choses claires. Cette année, ça va être difficile parce qu'ils peuvent pas recruter. Ils peuvent pas recruter. Donc, l'objectif de l'Olympique de Marseille, ça sera entre la deuxième à la septième ou huitième place,
là,
un truc comme ça.
Pardon, là.
La deuxième à septième place.
Ouais,
les places européennes, quoi.
Les places ouais. européennes et voir la septième place. Jusqu'à la septième place, il a été. Mmh. Donc, il a été honnête. Donc, pour moi, je suis optimiste puisqu'il est dans son objectif.
Ouais.
Il est dans son objectif. Ouais. Il n'a pas de renfort.
Pour l'instant, tu lui fais confiance.
Pour l'instant, je lui fais confiance. Comme encore une fois, la première journée, il nous a donné raison. Il a proposé des belles choses.
Il a
donné tort. La deuxième,
on va pas changer de jugement.
Mais dans le sens où, aussi, parce que, non, Jean-Mi, tu penses que l'effectif de l'Olympique de Marseille va jouer quoi? Le maintien?
Alors Jean-Mi, tu te fais attends, avant de parler. Non, vas-y, parle la défense,
attends,
Jean-Michel.
Attends, il va nous expliquer. Madame Irma va nous expliquer.
Non, vous êtes en train de parler du plus grand club ou d'un des plus grands clubs français qui aujourd'hui est en train de d'abord, quand tu me dis que le discours de Genesio a été clair, il a été clair, sauf qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que ce qu'on lui avait proposé n'était pas du tout ce qui allait se passer. Déjà. Et qu'aujourd'hui, il se pose des questions. Il l'a dit.
Oui, l'instant. C'est vrai. Ouais.
Il a dit pour l'instant. Pour l'instant, je reste là. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que l'Olympique de Marseille vise une place européenne. Ça veut dire quoi, messieurs? Huitième? Si l'un des 7 premiers gagne la Ligue, la Coupe de la.
En tout cas, c'est ce qu'il a dit en début de saison quand il a échangé avec la presse.
Aujourd'hui, vous êtes optimiste. Si l'Olympique de Marseille termine dans la première partie du championnat, il y a 18 clubs, donc la première partie c'est bien 9. Donc s'il finit 8e ou 9e.
Bah, quand tu regardes l'effectif,
vous essayerez de faire comprendre au public marseillais que cette année, il va falloir qu'il soit heureux. Qu'ils chantent et qu'ils
doivent repartir de zéro.
Certains de l'OM connaissent la situation du club. Il y en a un avec nous d'ailleurs au 32-16.
Qu'ils chantent parce que s'ils terminent 8e ou 9e.
Ah non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça.
Vous êtes dans la première partie du.
On a dit 7e.
L'objectif, parce que.
Mais même 7e.
Avec l'effectif qu'ils ont, ils ne peuvent pas te dire.
On parle de l'Olympique de Marseille.
Mais Olympique de Marseille ou pas aujourd'hui. Si tu n'as pas d'argent, comment tu veux faire?
Mais c'est. Aujourd'hui, tu as le droit.
Ils avaient qu'à anticiper.
Tu as le droit. Ah non.
Il est en écorne.
Il n'y avait pas anticipé. Je voudrais savoir quand même, Soulé. si c'est 800 patates qui sont parties depuis 10 ans.
Ah, mais ça, on a entendu. Là, le procès va arriver.
Où est-ce qu'elles sont passées devant le tribunal? Je voudrais savoir. J'ai plus de nouvelles de Longoria, qui a été l'usurpateur numéro 1. Et aujourd'hui, je vais même vous dire, je vais quand même taper. Je vais quand même pas taper sur Marc Court, qui a envoyé 800 millions. Mais Coco, 800 millions, tu peux pas te rendre compte avant qu'on te prend pour un jambon?
Ah bah oui.
Allez, le verre, tu te rends compte Loïc, avant.
Supporter de
l'Olympique. Par rapport à ce qu'est l'Olympique de Marseille, l'un des plus grands clubs français, si ce n'est le deuxième aujourd'hui, se contenter de la 7e ou 8e place, eh bien, si les supporters de Marseille sont heureux, je suis optimiste.
Ils n'ont pas le choix.
Jean-Michel, donc toi, tu les vois finir où?
Et jouer le maintien, quoi.
Ouais, maintien, abuse pas.
Non!
Ah bah si, c'est ce que tu m'as dit.
Il finit son milieu du tableau.
Ah, il revient sur son avis.
Allez, Loïc, qui remporte ce procès, Loïc? Le duo sous
Mais non, mais attendez.
Mais
quand tu es 7e ou 8e, aujourd'hui, cette année, tu peux être à 20 points du premier. Et à 5 points du barragiste.
C'est vrai, c'est pas faux aussi. Loïc, qui a voir la situation du club actuel, la situation du club
évidemment.
Jérôme est saoulé, évidemment.
On sait très bien que c'est une année de transition, donc il va falloir se mettre en tête qu'on a bien compris qu'on avait
Je commence fort, Capu.
Il y a des jeunes avec le petit Lexès, Mati, Nadi, Valero, c'est des jeunes sur lesquels il va falloir compter, cette année. Ils feront partie de l'effectif dans la rotation. Et puis voilà, on sait que c'est une année de reconstruction, c'est une nouvelle phase, un nouveau cycle. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Gardons un gros pichet d'eau, parce qu'à un moment donné, on va s'enflammer, on le sait, on va faire 3 victoires d'affilée, on va s'enflammer.
Bah oui,
et voilà, gardons les pieds sur terre et la tête froide, quoi, tu vois.
Bravo Loïc, donc, merci.
Vous êtes devenu très très sage.
J'ai gagné. Je gagne tous les procès depuis la rentrée.
Jean-Michel, bravo, tu t'es bien battu.
Et j'ai gagné. J'ai gagné un procès sur l'Olympique de Marseille.
Allez, dans un instant. Allô, Jérôme.
C'est comme la deuxième étoile.
Ah ouais, ça te fait quelque chose. On se souviendra de ce premier septembre 2026.
Merci Loïc.
Incroyable.
Merci
Loïc.
Oh là, je vais passer une soirée.
Dans un instant, Julien Laurent sera avec nous. La frénésie d'achat en Première Ligue, ça continue. Les chiffres sont fous. Voilà. On va en parler. À tout de suite sur
Fou.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron. Jérôme Rotten.
18h49 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On finit la première heure avec Soulé Diawara, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h en mode mercato. Ça finit dans 1h10. Dépêchez-vous les clubs si vous voulez nous raser encore dans le championnat de France.
Et on met du papier dans le photocopieur et dans les fax. Il n'y a pas d'histoire de papier arrivé trop tard ou.
Non mais fax, ça existe
on
plus.
On surveille les réseaux, les mails et tout quoi.
C'est les mails maintenant. Voilà.
Terminé. Faut
juste la wifi, c'est tout.
La signature électronique quoi, elle est prête.
Jean-Michel, c'est papyrus.
Ah oui. Papyrus. Il fait un dessin, il dessine un ballon.
Allez. Il envoie les pigeons voyageurs et voilà.
On est en Angleterre tout de suite. Allez.
RMC, Rotten sans flamme.
Je pense que la Ligue 1 pourrait lui conviendre.
Je vois pas pourquoi ils aimeraient. Après, oui, hier, il aurait peut-être pu être un peu plus efficace.
Je sais pas pourquoi.
Allô Jérôme.
Et nous on sait recevoir Julien Laurence qui nous rejoint.
Vraiment, franchement, pour la première de la saison,
Ah mais bon, après, on peut pas t'en vouloir. C'était après votre très belle finale de Ligue des Champions avec Arsenal.
Voilà, mais le pauvre il parle en anglais toute la journée. Il nous fait ce plaisir d'être avec nous. C'est pour ça. Julien, on est obligé de te convoquer en cette dernière journée de mercato en France et en Angleterre d'ailleurs, pour parler de ce nouveau record battu par la Première Ligue. 3 milliards 600 millions dépensés cet été par les clubs anglais. Les chiffres faisaient déjà peur l'an dernier, mais c'est encore plus effrayant cette année.
Ouais, vraiment incroyable, alors qu'on s'attendait peut-être pas à ce genre de chiffres-là, puisqu'il y a quand même des clubs qui sont sous sanctions financières un petit peu, Newcastle, Aston Villa, c'est des clubs qui ont dû vendre aussi, qui ont dû faire un petit peu attention, qui ont dû équilibrer les comptes, et pourtant on atteint des sommes incroyables. Alors tu l'as dit, 3,6 milliards, t'as des clubs comme Ipswich qui sont promus, qui viennent de dépenser 250 millions d'euros, mais genre imagine Le Mans monter en Ligue 1 et dépenser 200 millions d'euros.
Devant le Barça et le PSG, Ipswich, t'imagines.
Tu vois, c'est quand même incroyable, quoi, et donc c'est sûr sûr qu'on bat tous les records. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup de... C'est un marché qui est très interne, beaucoup plus que d'habitude. Donc en fait, et ce qui peut s'expliquer très facilement, il n'y a que les clubs anglais qui peuvent se permettre d'acheter chez les autres clubs anglais finalement, parce qu'ils ont, ils ont mis des prix tellement hauts que les, même les gros clubs européens ou même les autres grands championnats, pas, pas forcément la Ligue 1, mais les autres, ne peuvent même pas se permettre des clubs de des joueurs de Première Ligue finalement, parce qu'ils sont à des prix qui sont tellement inabordables pour les autres hors Première Ligue et hors Angleterre, que finalement tu finis par te, en, t'acheter et te vendre à toi et aux autres, et c'est comme ça qu'on arrive à un tel marché.
Bah, je vous donne deux autres chiffres qui sont là aussi très révélateurs. 179 millions dépensés en moyenne par club de Première Ligue, et l'Angleterre a dépensé quasiment autant que les championnats français, allemand, italien et espagnol réunis. Voilà. Donc l'Angleterre a son propre marché et fait ses propres transferts. On a vu beaucoup de dingueries, on en a vu d'ailleurs qui vont se concrétiser aujourd'hui. On a du mal à comprendre par exemple la stratégie de Manchester City. Quel est l'exemple qui te paraît le plus dingue à toi, Julien? Par exemple, City qui met quasiment 400 sur 3 milieux de terrain, Enzo Fernandez, Ayoub Boadi et Anderson, ça c'est complètement fou.
Ouais, complètement. Alors tu sais, souvent on dit pour des effectifs, il va falloir renforcer un petit peu le milieu de terrain, ou falloir reconstruire un petit peu le milieu de terrain. Tu vois, on a souvent des choses comme ça parce que t'as des joueurs un petit peu vieillissants, tu as des joueurs dont t'es pas forcément très content, ou tu veux le niveau supérieur. Là, en termes de reconstruction ou de renforcement, ou de, on peut utiliser les mots qu'on veut, c'est du jamais vu. Sincèrement, j'ai regardé, j'ai essayé de trouver d'autres clubs par le passé qui étaient peut-être allés chercher, à part l'été du PSG avec Neymar et Kylian, où finalement pour une attaque à deux, à deux de tes trois offensifs, t'as dépensé une fortune. Et encore avec le deal de Kylian, c'était l'arrangement avec Monaco était un petit peu différent. Trois joueurs du milieu de terrain, un nouveau milieu de terrain pour quasiment un demi-milliard d'euros. C'est du jamais vu. C'est juste incroyable. Alors, oui, ce sera très fort. Enzo, Elliot Anderson et Boadi, si tu peux les faire jouer ensemble. Et je suis même pas sûr que les trois soient beaucoup ensemble sur le terrain en même temps, en plus.
Bien sûr.
Donc, voilà, je sais pas. Pour moi, c'est aussi t'as parlé tout à l'heure de d'autres chiffres très révélateurs. Pour moi, celui-là aussi. Et finalement, tu résumes bien ce qui s'est passé cet été en Angleterre au niveau des transferts.
Il y a aussi les folies des anciens joueurs passés par la Ligue 1. C'est ça qui nous surprend, Jérôme, quand on voit les tarifs annoncés pour des joueurs comme Ismaïl Assar ou Illiman Ndiaye, là aussi, 75, 50.
Ouais, bah après, c'est la folie anglaise, hein. Ils sont comme ça. Déjà, ils sont très fiers, et Julien nous le répète très souvent, très fiers de leur championnat. Pour eux, c'est le meilleur championnat au monde. C'est le plus riche, ça, c'est une certitude, et on le voit encore. Donc après, ils sont pas, vu qu'ils ont beaucoup de moyens, ils sont pas, si tu veux, serrés sur le prix d'un transfert. Pour eux, 75 millions pour un joueur comme Ndiaye. Bon, écoute, ils se disent, bah oui, c'est raisonnable. Pour nous, c'est incroyable. Du moins, quand tu vois le joueur, même s'il a le droit de progresser aussi, mais quand tu vois le joueur qu'il était à Marseille il y a quelques années, et c'est pas, je te parle pas il y a 10 ans. Hein.
Après, il s'est montré plus performant avec son club d'Everton.
Oui, bah il jouait à Everton. Everton, à ce que je sache, ils ont pas fait une énorme saison, tu vois. Donc, c'est toujours pareil. Donc, après, moi, les chiffres m'interpellent. C'est sûr. Après, s'ils ont envie de claquer leur oseille comme ça et donner des prix, tu vois, même Boadi, tant mieux pour Lille. Mais Boadi, 100 millions, les gars.
Non, et 65 pour Fernandez Pardo à Newcastle.
65. 100, combien Enzo Fernandez?
140 a annoncé.
Ouais, 140. Non, mais excuse-moi. Encore eux, ils ont du talent, Jay. Mais t'as un mec comme Liam Delap, que Chelsea a acheté il y a un an.
Delap,
pour 40 millions d'euros, qui viennent de vendre 60 à Forest.
Non, mais
qui à Nottingham Forest se dit, ah bah oui, c'est bien ça.
Non, mais c'est fou.
C'est le grand attaquant.
Il prend de la valeur. Il y a que ici qu'on voit ça.
Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est fou. C'est complètement dingue.
Le joueur anglais est encore plus cher que les autres, d'ailleurs.
Exactement. Surtout quand t'es international anglais. C'était la folie, même déjà, moi, quand c'était en 2006.
Oui, déjà à l'époque.
J'ai vu des joueurs qui jouaient dans mon équipe qui sont partis dans d'autres clubs. Je me disais.
Ma mère, c'est pas possible.
Mamad, j'ai dit, mais viens ici, tu vas être rendu le double, tu vois, parce que en termes de qualité, je me dis, il y a des joueurs que je connaissais même pas. C'est pour ça que je disais à chaque fois, la Première Ligue, en vrai, c'est même plus un championnat, c'est une machine à aspirer les talents en Europe, tu vois. Et où j'ai été surpris, c'est bon. Après, là, on peut pas trop aussi en vouloir au club anglais parce que c'est dans leur culture.
Ah bah non, mais ça a toujours été tant mieux pour nous, ils nous enrichissent.
Et les droits, exactement, les droits TV, je crois, ils ont été multipliés.
Liverpool a pris 200 millions de droits télé l'année dernière, par exemple.
Ben, voilà, donc ils peuvent se permettre de mettre des millions sur des joueurs moyens ou des joueurs inconnus au bataillon. Parce que c'est comme ça.
Après, c'est des pigeons. Non, mais franchement,
il faut tourner leur économie, c'est ça aussi. aussi.
Non, mais, et puis d'accord. ça reste en Angleterre.
La plupart des clubs anglais, ou la totalité des clubs anglais, est propriétaire de son stade déjà.
En plus.
Chose qui n'existe pas en France, par exemple. Et puis, moi, j'arrive. C'est difficile à comprendre, Julien, parce que je crois que l'an passé, du côté de Liverpool, on en a déjà envoyé 500 en patate.
Ouais.
C'est ça.
Et juste avant, c'était Chelsea, je crois.
Et pourtant, les résultats n'ont pas été. Donc, ça leur fait pas peur, même si les résultats ne suivent pas, on continue.
Mais tu sais, t'as des revenus, Jean-Mi, t'as des revenus, en fait, qui sont tellement élevés, que même sur une saison moyenne, rappelle-toi Manchester United, ils étaient nuls, ils continuaient à engranger beaucoup, beaucoup d'argent. On le disait, c'était assez incroyable que un club pareil, sans résultat après le départ de Sir Alex Ferguson, qui a pu gagner un titre maintenant depuis 2013, qui continue à engranger des revenus à 1 milliard par saison, c'est de la folie. Et c'est vrai que l'avantage qu'ils ont, en fait, et c'est là où tu vois,
c'est suivi dans le monde entier, la première ligue.
Mais comme tu dis, Benoît, maintenant, t'es tellement au-delà de tous les autres que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que tes clubs à toi qui peuvent acheter tes joueurs à toi, puisque tu as mis des prix tellement élevés que plus personne d'autre ne peut.
Soit comme nous, en France, nous, on est là, on forme.
Ouais, et puis Julien, merci. Puis, tu sais, le club qui est champion d'Angleterre tous les ans,
c'est le PSG.
Bah ouais, ils ont moins dépensé. Donc, moi, je suis content.
Ouais, t'imagines.
Content.
Voilà. Bon, ça va pas embêter Julien. Ça va pas embêter Julien, t'inquiète.
Bon, bah, ça tombe bien parce qu'on en a encore quelques-uns dans le.
Merci Julien Laurent.
C'est très
le
bien.
Marché merci, anglais merci, ferme Juju. À minuit, hein, voilà, c'est la fin à minuit ce soir pour le marché anglais. La France, c'est 19h59 dans une heure tout pile. Et nous, on revient dans un instant. Roten se chauffe sur RMC. La position de Jérôme ce soir, la stratégie du PSG sur ce mercato est la bonne. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h, Roten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie ? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.